Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.
Bonjour à tous, merci d'être une fois de plus à l'écoute d'Humeur de ville. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Zora Elbaz, la directrice de la CEMAC 92, qui travaille sur Gennevilliers, un territoire de première couronne francilienne qui accueille encore beaucoup d'activités productives. Avant d'échanger avec elle, Rémi Cambeau va nous parler de l'image de ville industrielle, justement, de Gennevilliers.
Humeur de ville, l'édito de Rémi Cambeau.
Oui, oui, une ville qu'on connaît bien, Gennevilliers. Est-ce un port ou une ville ? Le premier port fluvial français s'y trouve, il s'étend sur un tiers de la commune et c'est peu dire que cette infrastructure a influencé le mode d'occupation des sols de la commune historiquement. Les zones d'activité, de logistique sont très présentes ainsi que des typologies de logements qui étaient très associées à cette aire industrielle. Et de fait, quand on parcourt la commune, on voit une commune qui est engagée dans un projet de mutation tous azimuts qui doit provoquer un changement d'image important, y compris par rapport au marché et au projet et aux acteurs de l'immobilier. Alors, elle est un territoire type des problématiques actuelles de l'urbanisme qui vise à refaire la ville sur la ville. C'est presque un laboratoire. Sur le plan du renouvellement urbain, par exemple, on voit que l'arrivée d'une gare du Grand Paris Express aux Agnettes, bien sûr, va aider. Dans un projet en cours d'extension, de mutation complète du centre, de même que le quartier des Grésillons est en train de muter avec cette occupation temporaire qui préparera sa transformation et qui là aussi joue sur, avec la preuve par neuf normalement, notamment joue sur des expériences de fabrique de la ville tout à fait nouvelles. Reconquête des friches. On en parlait, à côté des Agnettes se développe, ça c'est pas nouveau, mais quand même, un quartier Chandon République sur l'emplacement des usines Chausson. Et puis, la ville a lancé le défi de réaliser un quartier mixte sur la zone d'activité Sud-Chantraine. Donc, des logements nouveaux vont être construits, apportant plus de diversité. On notera que c'est un territoire d'accueil du bail réel solidaire pour permettre l'accès au logement abordable avec la coopérative solidaire francilienne. Et puis, même la nature en ville, autre thème de l'urbanisme de demain dont on parle beaucoup. 40 hectares sont à cheval sur Argenteuil et Gennevilliers et sont le tuyau d'un projet de reconquête pour développer une agriculture maraîchère. Voilà, ce changement est perceptible. Il l'est aussi, j'ai parlé des quartiers de renouvellement urbain, dans le quartier du Luth, quartier historique de logement social. Alors, le changement d'image est marqué. On y trouve déjà un très beau centre culturel conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, une espèce de lanterne magique magnifique dans l'est du quartier. Et puis le changement d'image, c'était aussi l'idée de proposer un grand terrain à l'ouest de ce quartier, dans inventons la métropole du Grand Paris. Donc on a vu pointer la promesse d'un grand projet de la compagnie de Phalsbourg, TML, dans cette partie ouest à la frontière avec Agnières, qui annonce peut-être une nouvelle architecture marquante, mais avec les incertitudes que ce genre de pari fait toujours peser, puisque les opérateurs seront-ils au rendez-vous des promesses ? On n'en sait rien. Alors, le territoire de reconquête des Gennevilliers a engagé son défi de changer son image. Des éléments sont déjà présents, mais la réponse n'est pas encore tout à fait là.
Humeur de ville, l'interview.
Bonjour Zora Elbaz. Vous êtes arrivée au milieu des années 2000 à la CEMAC 92 et vous avez pu voir le territoire beaucoup évoluer sur un plan urbain avec un développement massif du résidentiel, mais toujours la volonté de maintenir l'emploi et l'activité, on vient d'en parler. Le maintien d'une économie productive, c'est ce qui caractérise le mieux le travail de la CEM, en tout cas en ce moment, Zora Elbaz.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un des axes, ou en tout cas un des éléments moteurs. Et d'ailleurs, sur une partie importante de notre intervention, quelques axes sont assez emblématiques, effectivement, de cette force, ou en tout cas de cette volonté politique d'un maintien de l'économie dans son ensemble, mais en tout cas de l'activité productive, donc avec, comme vous le rappeliez justement, hein, le siège d'un certain nombre d'acteurs historiques, comme Thalès, qui y était et qui est revenu il y a quelques années dans une nouvelle opération, effectivement, qui a aussi été reconvertie, comme la SNECMA, comme un certain nombre d'entreprises, encore une fois, à impact industriel très forte, et qui font aussi l'image de Gennevilliers d'hier, mais l'idée, c'est qu'elles accompagnent aussi la transformation de l'image qui est actuellement, encore une fois, très assumée et avec, encore une fois, la volonté de maintenir ses activités, mais en les accompagnant dans le cadre de cette transition aussi écologique et économique.
Parmi la quinzaine d'opérations que vous chapeautez, il y a bien sûr la ZAC Gare des Grésillons. Pour ce secteur proche d'une future gare du Grand Paris Express, on compte pas moins de 50 000 m² d'industrie qui sont prévus dans l'opération, mais aussi 8 000 m² de bureaux et un peu plus de 2 200 m² de logements. Ceci dit, le programme initial est retravaillé actuellement. Qu'est-ce qui va évoluer, Zora Elbaz, dans cette ZAC ?
Alors, ce qui va rester et qui est quand même l'élément fondamental de cette opération, c'est que ça reste un secteur qui sera voué à l'économie, ou en tout cas à l'activité. Comme vous le rappeliez justement dans le programme, on a la volonté qu'il y ait du logement, mais ce ne sera pas du logement résidentiel, en tout cas pas du logement familial. Ça peut être que du logement d'accompagnement dans le cadre d'ateliers d'artistes ou du logement thématique, logement étudiant, logement résidence hôtelière. Mais la volonté, c'est vraiment de maintenir, la caractéristique économique de ce secteur. Donc, comme vous l'aviez justement dit, on réinterroge complètement le programme. Parce que les études préalables réalisées par la ville, en lien évidemment avec le territoire et l'aménageur, nous ont montré que vu le positionnement de ce site au pied d'une gare du Grand Paris, l'ambition, elle doit être plus forte en élargissant encore une fois vers une diversification d'activités, mais avec une volonté d'avoir une très haute qualité à proximité encore une fois de cette gare. On va réinterroger aussi la densité. Clairement, ce que vous venez d'évoquer le souligne bien, on a un programme actuellement très peu dense au regard, encore une fois, de ce positionnement, au regard de la proximité de cet axe avec les autres gares et l'interconnexion à terme. Donc là, il y a vraiment un travail à faire, effectivement, sur ce sujet. Donc cette densification et la réflexion aussi sur un immobilier d'entreprise qui devra permettre d'innover et qui permettra, encore une fois, d'accompagner la ville dans cette démarche de maintien de l'économie, mais d'évolution, encore une fois, toujours vers ces économies d'avenir.
Parmi les casquettes de la CEMAC 92, il y a, et c'est corrélé à l'activité industrielle passée, une expérience importante en matière de traitement de la pollution des sols. Je voulais vous entendre aussi là-dessus. Notamment, on peut parler de la ZAC des Louvresses qui s'achève et qui accueillait la plus importante usine à gaz d'Europe et sur laquelle il va y avoir une crèche sur le site, entre autres. Donc, cette opération nous donne l'occasion de vous entendre sur la méthodologie que vous avez déployée au fil des années pour gérer ces enjeux.
Alors, la ZAC des Louvresses, c'est une ZAC assez emblématique parce qu'effectivement, comme vous venez de le rappeler, elle a accueilli une des plus grosses usines à gaz, et c'est pas un jeu de mots, qui appartenait à GDF, actuellement Engie. Donc, cette ZAC s'étale sur à peu près 25 hectares. Ce site était exclusivement propriété de GDF, avec aussi une occupation de petits pavillons qui étaient destinés aux contremaîtres, aux salariés, en tout cas aux directeurs du site qui étaient logés sur place. Donc, quand la SEM a acheté ce site, elle l'a acheté de manière globale en 2014, mais cette acquisition a fait suite à des négociations qui ont perduré une dizaine d'années. Donc c'est très très long. La négociation effectivement avec GDF a été très très longue. Parce que ce site, évidemment, très très pollué, avec présence de pollution très lourde, d'hydrocarbures, je ne vais pas vous donner le détail de toutes les compositions. Donc, il a fallu travailler de concert avec le propriétaire, mais surtout avec les services de l'État pour définir les usages possibles sur ce secteur. et travailler, encore une fois, à adapter une programmation, encore une fois, au marché économique, hein, qui était quand même assez balbutiant sur ce secteur, et de clairement donner une vocation économique tertiaire, avec l'ensemble aussi des services qui peuvent accompagner les salariés dans ce territoire. Donc aujourd'hui, c'est 6000 salariés sur le site. Donc comme je vous l'ai dit, avec le siège de Thales, avec le siège de Up, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et d'autres entreprises, mais c'est surtout effectivement, comme vous l'avez souligné, un travail énorme d'expertise, de gestion des terres et de plan de gestion pour travailler à voir ce qui peut être effectivement maintenu sur site et ce qui peut être effectivement évacué dans un cadre d'opération, j'allais dire, d'aménagement global, et qui nous a permis effectivement d'éviter un certain nombre de surcoûts et d'éviter de faire sortir un certain nombre de camions, parce que on a pu gérer un certain nombre de contraintes sur site en confinant évidemment des déchets ou des pollutions qui étaient complètement compatibles avec l'usage du site et avec un certain nombre évidemment de prescriptions. Surveillance des eaux, surveillance de la nappe, surveillance effectivement de l'évolution du projet, et avec un cadre vraiment très très strict, hein, puisque quand on a travaillé avec les services de l'État pour l'installation de cette crèche, hein, qui est un des établissements les plus sensibles qui soit, on a effectivement eu l'ensemble des autorisations pour pouvoir créer et en tout cas développer cette crèche privée sur le site.
Ce qui a aidé aussi beaucoup au projet, ce sont les investisseurs, hein, qui sont venus sécuriser le projet. Ça aussi, c'est une des clés, c'est pour assurer le modèle économique du projet, de bien s'entourer.
Bien, clairement, le départ avec cet investisseur qui était Bernheim à l'époque, hein, qui a géré Real Estate. Alors je les cite volontiers parce que ils ont cru au projet dès le départ. Et à la création de cette ZAC, effectivement, dans les années 90, hein, 90-92, voilà, pour avoir relu des coupures de presse, parce qu'évidemment je n'étais pas là à l'époque, c'était quand même un pari osé et qui n'était pas franchement bien accueilli, en tout cas par le marché, comme on peut dire, en tout cas par le secteur économique à l'époque. Et c'est vrai que le fait qu'un investisseur soit présent dès le départ a permis de crédibiliser l'opération, et ils nous ont effectivement accompagnés sur toute la durée de l'opération, et l'engagement a été long. Alors évidemment, les négociations ont évolué aussi en fonction des différentes commercialisations et du contexte économique, mais en tout cas, on a eu à cœur de maintenir ce partenariat très très étroit dans la durée, et on finit l'opération avec eux. Voilà.
Et sur cette ZAC, justement, il y a un dernier lot qui est commercialisé avec Spirit également pour faire sortir un parc d'activités l'année prochaine sur 30 000 m². Le permis a été obtenu, je crois.
Le permis a été obtenu, donc là c'est vraiment une nouvelle fraîche. On attend effectivement les délais de purge, et l'objectif, c'est le lancement de la première pierre. Voilà, si les conditions sanitaires, en tout cas, le permettent, dans un format qui sera un peu plus convivial que ce qu'on a pu vivre ces derniers temps. En tout cas, à la fin du printemps, fin avril, début mai. Alors, on est très très content parce qu'effectivement, c'est vraiment la dernière opération portée avec AG Real Estate et avec Spirit. On est allé chercher Spirit parce que on pensait aussi que c'était intéressant d'associer cet opérateur, et qui nous permet d'élargir aussi la cible de public, encore une fois, sur ce secteur, puisque on pourra offrir des bureaux et des produits entre guillemets mixtes, soit à des locataires entreprises, soit à des propriétaires, pouvoir aussi développer du clé en main. Donc voilà, ça permet d'élargir en tout cas un panel qui peut être intéressant pour s'adresser à un différent nombre d'entreprises.
Zora Elbaz, autre dossier qui devrait continuer à bien vous occuper ces prochaines années, la ZAC des Agnettes. La ville et l'EPT Boucle Nord de Seine ont souhaité élargir le périmètre du projet. D'ailleurs, vous attendez de savoir si vous serez l'aménageur de ces Agnettes élargies. Il s'agit ici de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU et d'un secteur à 90% composé de logements sociaux que la ville veut ouvrir sur le reste de la commune, et notamment en misant sur l'accession et aussi, bien sûr, sur la proximité avec la deuxième gare du Grand Paris Express. Comment vous travaillez notamment avec la Société du Grand Paris pour caler vos chantiers? Il était question de 2027, puis de 2030. Maintenant, on est sur l'après-2030. Comment vous réussissez à porter le projet malgré tout?
Je pense que, en tout cas, la qualité et le devoir d'un aménageur, en tout cas local, que nous représentons, c'est capacité d'adaptation et de souplesse pour effectivement, avec objectif premier, essayer de sortir les opérations en tenant compte, encore une fois, de l'ensemble des protagonistes et l'ensemble des partenaires. Alors, il est évident que les relations avec la Société du Grand Paris sont bonnes, sachant que on a chacun, encore une fois, nos impératifs en termes de planning. Alors, c'est vrai que les échéances, elles évoluent. Voilà, on a tous en tête le planning, en tout cas de la ligne 15, qui n'a de cesse d'évoluer. Donc, c'est vrai que nous, l'opération envisagée sur la ZAC des Agnettes était calée sur des lancements, en tout cas de l'eau en accession sociale, en accession libre, était calée sur des délais beaucoup plus rapprochés que ce qu'on a à subir aujourd'hui. Ben, on s'adapte, on se met tous autour de la table et on essaye de voir ce qui peut être lancé. Donc, on a lancé quand même consultation sur un lot là qui est en cours d'une centaine, 120 logements, qui va nous permettre en tout cas de pouvoir commencer à construire et montrer qu'il se passe des choses sur ce secteur. Hein. Pour rappel, c'est un secteur sur lequel la ville et le territoire travaillent depuis de nombreuses années avec la population. Donc, vous l'avez souligné, on est dans un secteur en rue, PNRU 2, donc avec une typologie d'occupation, une typologie de problématiques qui sont assez identifiées. Et ce que attendent les gens aujourd'hui, c'est vraiment c'est le démarrage des travaux. C'est le démarrage du renouvellement urbain, c'est la reprise des espaces publics avec un aspect très très important sur le maintien des espaces verts et avec la création, le maintien d'une ferme urbaine qui est déjà sur place. Donc c'est plutôt de l'impatience aujourd'hui qui est effectivement observée au niveau de ce quartier, et on attend avec impatience, encore une fois, nous aussi, de pouvoir être confirmé en tout cas dans notre mission d'aménageur pour poursuivre les missions qui sont, encore une fois, très, très, très larges et diversifiées.
Ça ne devrait pas trop traîner, j'imagine, cette notification éventuelle.
Mais écoutez, on a une réunion d'échange et de négociation la semaine prochaine, tout début avril. Voilà, on va laisser suivre le cours des choses, mais bon, on est plutôt optimiste.
On ne peut pas parler, Zora Elbaz, de la CEMAC 92 sans évoquer Sud-Chantraine, que vous aménagez depuis 2017. Pas d'ANRU et donc pas de TVA réduite sur ce secteur qui doit accueillir à terme 1500 logements, dont la moitié en accession, avec la volonté de partir de manière significative sur du BRS. Vous pourrez nous en dire un mot. Vous êtes en phase d'AVP sur ce projet. Elle devrait être validée avant l'été. Ce qui est intéressant, entre autres, c'est que vous vous heurtez à une difficulté particulière qui s'ajoute à d'autres difficultés. Vous êtes en zone inondable. Alors, oui. Comment vous faites? L'idée, c'était d'éviter de creuser quand ce n'est pas indispensable, pour résumer l'état d'esprit.
Oui. C'est exactement ça. Alors, le périmètre de la ZAC Sud-Chantraine est idéalement situé d'un point de vue, encore une fois, urbain, contextuel, puisqu'il est en face d'un magnifique parc des Chantraines, hein, s'étalant sur une centaine d'hectares, proximité aussi de la Seine. Donc, c'est vrai que ce périmètre d'à peu près 30 hectares aujourd'hui, hein, notre périmètre d'aménagement couvre environ 36 hectares. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un quartier, en tout cas un modèle d'aménagement en zone inondable, mais avec aussi une densité urbaine qui puisse effectivement être acceptée dans un secteur qui est exclusivement d'activité aujourd'hui. Donc, on amène du logement dans un secteur qui a une vocation exclusivement économique. Donc là, il y a eu énormément aussi de débats, d'échanges en interne pour urbaniser ce secteur, sur ce nouveau secteur. Avec une volonté programmatique très claire, c'est d'être sur un quartier mixte, de maintenir de l'activité, d'amener effectivement du commerce de proximité, mais en amenant du logement résidentiel, des équipements publics, de l'espace vert. Pour mémoire, sur l'ensemble des espaces publics, on est à plus de 38%, presque 40% d'espaces verts sur ce secteur. Donc, il y a une volonté paysagère, ou en tout cas une politique sur les équipements publics très très importante, avec l'objectif de limiter l'artificialisation et évidemment de faire corps avec les contraintes qui sont sur le site. Et le plus important d'entre eux, c'est effectivement le PPRI, le plan de prévention des risques liés à l'inondation, qui nous contraint évidemment à ne pas bouleverser la densité actuelle et de rester pratiquement sur des emprises existantes. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail parce que…
Oui, et puis on va être tenu par les délais aussi, la durée de l'émission qui va devoir s'achever malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Zora Elbaz. C'est déjà l'heure donc de s'arrêter. On continuera à suivre les opérations de la CEMAC 92, y compris dans les colonnes de Cadre de Ville. Et Humeur de Ville revient le mois prochain.
Humeur de Ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.